Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, and it's been coming for some time. When it's over, so
mercredi, Romu Ménage en direct de 17h à 18h30 sur Radio Zone 93,8. Alors Marianne, aujourd'hui on a un programme moyennement chargé hein, quand même. Parce que...
Mais c'est toi qui vas nous dire de quoi il s'agit surtout.
Alors moi je vous propose, comme je vous l'ai annoncé la semaine passée, un dossier sur l'amniocentèse, ce test qui permet de dépister pendant la grossesse, un certain nombre d'anomalies et de malformations de l'enfant à naître. Nous aurons comme invité en direct Christine de la consultation des sages-femmes à Genève. J'ai interviewé beaucoup d'autres personnes, entre-temps dont le professeur Angèle.
Et moi, je vous propose de la musique. Alors tout de suite, Celia Cruz.
No la podrá encontrar, compadre, en cualquier lugar. El bochito y la bochita te brindarán su amistad.
Voy a Yucatán, compadre, voy a bailar un poco. La gente de aquella tierra baila bonito y sabroso.
Y cuando quieras comer y darle gusto al paladar, te brindarán unos guisos que el dedo te chuparás. Tú no lo podrás encontrar, compadre, en cualquier lugar. El
el bochito y la bochita te brindarán su amistad.
Voy a yupatán, compadre, y voy a bailar un poco. La gente de aquella tierra baila bonito y sabroso.
Mérida es la capital de la tierra del Mayap, la leyenda y la cultura que tiene Chichen Itza. Tú no la podrás encontrar, compadre, en cualquier lugar. El bochito y la bochita te brindarán su amistad. ¡Vamos a Yucatán!
Voy a Yucatán, compadre, me voy a bailar un poco.
Por el paseo Montejo me quiero ir a recrear.
Voy a Yucatán, compadre, me voy a bailar un poco.
Me voy a comer paisán, me voy a gozar un poco.
Voy a Yucatán, compadre, me voy a bailar un poco.
Voy a bailar la jarana, su baile tradicional.
Et nous, à tous les grands malins qui ont voté non aux 40 heures, voilà ce que l'on leur dit.
Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Toi toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nos que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans que personne ne plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
C'était Arletty, moi j'en ai marre.
Ben nous on n'en a pas marre d'être là, en tout cas on est pleine d'énergie pour ce 7 décembre parce qu'en tout cas on vous promet un programme magnifique à partir de maintenant jusqu'à 23h ce soir.
C'est vrai qu'on n'a pas annoncé ce qui allait se passer dans Onde Femme ce soir, alors Remue Ménage spécial amniosynthèse, c'est comme ça qu'on dit ?
Voilà, oui.
Vous saurez tout sur la question. Et ensuite les informels de Radio Pleine Lune suivi du Memento et ensuite toujours une émission en direct de 20h à 21h.
Cause toujours, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir, Marianne ?
Et ce soir, ce que j'ai à vous dire, enfin ce que nous avons à nous dire, un dossier, une enquête sociologique et amoureuse, l'amour, la première fois.
Ce sera une grande soirée d'amour parce que l'amniosynthèse, quelque part, c'est aussi une grande histoire d'amour au fond, hein, tout au fond. Je crois que c'est un sujet tellement grave et important que c'est une grande histoire d'amour. Alors, ce sera toute la soirée de l'amour puisque moi, par contre, en compagnie de Brigitte, je vous proposerai depuis 21h l'amour en musique sous toutes ses formes. Vous me direz, c'est pas difficile parce que qui, en étant chanteur ou chanteuse, n'a pas au moins les trois quarts de son répertoire qui est des chansons d'amour. Mais on essaiera quand même de varier dans les chansons d'amour.
Alors tout de suite, notre dossier. Bien sûr que si vous avez des questions à poser sur la question, il est temps de nous appeler au 023 50 40 51 41.
Oui, j'insiste beaucoup là-dessus parce que comme nous avons Christine de la consultation des femmes avec nous en direct dans le studio, bonjour Christine.
Bonjour.
Il faudrait évidemment que si, en nous écoutant, vous avez une quelconque question précise à poser sur l'amniocentèse ou un autre test dont nous allons parler qui se fait aussi au même moment et pour les mêmes raisons, ou bien si vous avez une expérience, un témoignage à propos de ce type de choix, vous pouvez nous appeler et ce serait même important de le faire. Christine sera là pour répondre à vos questions en direct et nous serons toutes là à écouter des témoignages supplémentaires parce que bien sûr qu'en une heure, on n'a pas le temps de faire passer de nombreux enregistrements d'interviews. On en proposera quelques-uns, mais si vous pouvez téléphoner, c'est tout aussi bien. Alors Christine, peut-être, j'ai dit tout à l'heure en super résumé que l'amniocentèse, c'est le test qu'une femme peut choisir de faire au début de sa grossesse pour déterminer si son enfant est éventuellement atteint d'une anomalie chromosomique type la trisomie qu'on appelle communément le mongolisme, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ou bien autre anomalie qui peut être révélée par une analyse du liquide amniotique. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais nous définir, très techniquement, pour commencer, puisqu'on va souvent utiliser ces mots, qu'est-ce que l'amniocentèse et peut-être aussi qu'est-ce que la chorionocentèse, dont on parle aussi, qui est un autre test possible au début de la grossesse.
Alors, ce qu'on connaît depuis beaucoup d'années, c'est vrai que c'est plutôt l'amniocentèse qui est un test qui se fait plus tardivement dans la grossesse. À savoir autour du quatrième mois de grossesse, on dit plutôt à 16 semaines. C'est un test qui permet de façon assez sûre de dépister un certain nombre de malformations et qui permet d'analyser également le liquide amniotique pour rechercher les alpha-fœtoprotéines qui sont des protéines fœtales qui révèlent aussi un certain nombre d'anomalies. Depuis quelque temps, un autre test est proposé qui se fait beaucoup plus tôt dans la grossesse. À savoir, ça peut se faire au moment de 8 semaines, 8 à 10 semaines de retard de règles. Et donc, le résultat obtenu à partir de ce test, qui est la chorionocentèse, est un résultat qui intervient avant la fin du troisième mois. Avec ces deux tests, on a des réponses plus ou moins identiques. La différence est que ce nouveau test qui est pratiqué à partir de 8 ou 10 semaines de retard de règles, on a la possibilité de faire une interruption de grossesse beaucoup plus tôt.
Mais disons au niveau de l'information, peut-être pour commencer, l'amniocentèse et la chorionocentèse donneraient les mêmes informations sur les malformations ou autres problèmes de développement du fœtus.
Étant donné les techniques différentes, le matériel prélevé qui est différent, il peut y arriver effectivement qu'on soit obligé de répéter un examen après ce test précoce de chorionocentèse. C'est pas tout à fait fiable étant donné qu'on prélève techniquement du matériel sur l'œuf et que ce matériel-là peut être des fois un peu douteux. Donc on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait anomalie ou pas. Et à part ça, techniquement, ça pose un autre problème.
Alors oui, effectivement, techniquement, il y a, semble-t-il, des risques à faire aussi bien la chorionocentèse que l'amniocentèse. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces risques et peut-être les mettre en balance avec les risques que court la femme, selon des âges auxquels elle serait enceinte, d'avoir un enfant mal formé? Alors peut-être d'abord les risques des tests.
Les risques des tests, ils sont très différents. À savoir que comme l'amniocentèse est pratiquée comme étant un examen très facile et très bien maîtrisé depuis longtemps, on peut considérer que le risque est minime. Alors que la chorionocentèse est un examen qui se fait depuis moins longtemps et qui ponctionne directement sur l'œuf des villosités, c'est-à-dire du matériel cellulaire qui est l'embryon de placenta. Le gros problème, c'est de savoir si vraiment il y a plus de risques avec un examen ou un autre de provoquer une fausse couche. Parce que dans la grande majorité des fausses couches spontanées, c'est-à-dire des grossesses qui sont perdues jusqu'au troisième mois, il y a énormément d'éliminations qui sont naturelles et spontanées. C'est toujours très difficile d'impliquer le test et la technique à une fausse couche. Donc on ne sait jamais tout à fait si c'est un œuf qui aurait de toute façon été éliminé ou si c'est simplement l'acte médical qui implique un risque.
Mais en l'occurrence, les risques plus ou moins observés qui seraient, je crois qu'on dit que la myosynthèse, il y a un risque sur 300 tests qu'il y ait un problème, donc il y ait fausse couche. Quant à la choriosynthèse, c'est plus fréquent, non ? C'est un risque sur 100, je crois. Hein, c'est plus.
C'est-à-dire, c'est probablement lié à la technique qui n'est pas tout à fait au point encore, et à cette espèce de difficulté à dépister qu'est-ce qui est vraiment lié à la ponction sur l'œuf ou qu'est-ce qui serait de toute façon une élimination. Simplement, les conséquences sont différentes. C'est évident que de perdre une grossesse à 12 semaines, au niveau de ce que ça implique comme préjudice corporel, comme vécu de cette perte de grossesse, est quand même vécu assez différemment par une femme si ça se passe avant le troisième mois ou si ça se passe plutôt avant le cinquième mois, c'est-à-dire près du milieu de la grossesse.
Alors, en l'occurrence, à cause de ces risques, souvent, lorsqu'une femme vient demander qu'on lui fasse un de ces tests, que ce soit la choriosynthèse ou la myosynthèse, on fait toujours une sorte de balance avec les risques qu'elle encourt, selon l'âge qu'elle a au moment de sa grossesse, avec les malformations possibles. Alors, est-ce que tu peux nous montrer cet équilibre ?
Bon, alors, il faudrait peut-être dire qu'en priorité, en tant que professionnelle, on va parler et proposer le test de la myosynthèse à des femmes à partir de 35 ans ou à des couples qui ont vraiment un problème lié à l'âge, puisque c'est à cet âge-là que commence c'est à cet âge-là que les problèmes, disons, liés au vieillissement des gènes et à des problèmes de mélange des gènes, qu'il peut y avoir le plus d'accidents. Donc, prioritairement, on va le proposer, en parler aux personnes, prioritairement aux femmes, qui ont un premier enfant à partir de 35 ans, étant donné que les risques d'anomalie augmentent. Quant au test à choisir plus tôt un dépistage du premier trimestre ou un dépistage du deuxième trimestre, ça reste quand même vraiment le choix des femmes et en connaissance de cause, qu'est-ce qu'elles veulent prendre comme risque. Parce que de toute façon, dès qu'il y a acte médical, il y a le petit doute et la petite possibilité, d'une part, d'intervenir techniquement accidentellement dans cet acte, et d'autre part, d'avoir aussi une réponse qui ne soit pas satisfaisante, à savoir qu'on ne peut pas toujours avoir, au niveau du matériel, des cultures qui poussent, des cellules qui poussent et qui donnent une réponse satisfaisante. Donc il faut des fois répéter cet examen.
Voilà, parce que comme tu dis, on doit faire pousser des cultures. C'est ce qui, par exemple, pour la myosynthèse, fait que si on fait le test, la ponction à 16 semaines, il faut attendre quasi 3 semaines, un mois pour avoir le résultat. C'est ça ?
Oui. Dans ce sens-là, c'est vrai que les deux techniques ont leurs avantages et leurs désavantages. Mais pour ce qui est de l'attente et de la réponse, on a une réponse beaucoup plus tôt avec la choriosynthèse, étant donné que c'est plutôt dans la grossesse. Mais il faut de toute façon soit faire pousser des cellules qui sont des cellules du début du placenta ou soit faire pousser des cellules qui sont des cellules du liquide amniotique, qui sont les cellules de la peau du bébé qui se mélangent au liquide amniotique. Bon, attendre jusqu'au cinquième mois, jusqu'à 20 semaines pour avoir une réponse, c'est long. Si la sanction est une interruption de grossesse, parce qu'évidemment, les deux avortements provoqués vont être très différents. Jusqu'à 12 semaines, il s'agit d'une interruption de grossesse faite avec des moyens tout à fait classiques, à savoir une narcose générale, éventuellement une narcose locale et un curetage, alors qu'à partir de la 16e, 18e semaine, donc à partir du moment où il y a déjà un fœtus constitué, il s'agit de provoquer un accouchement et de faire ouvrir le col de la matrice avec des contractants utérins et d'expulser un fœtus.
Nous traitons aujourd'hui d'un dossier sur l'amniocentèse et nous devons résumer assez rapidement l'explication de quels sont ces deux tests. Il y a l'amniocentèse, la chorionocentèse, qui est deux tests qui permettent de dépister pendant le début de la grossesse, l'un à la 10e semaine de la grossesse, l'autre à la 16e grossesse de la semaine, l'amniocentèse, des maladies ou des anomalies chromosomiques telles la trisomie, c'est-à-dire qu'on appelle communément le mongolisme. Ces deux tests représentent chacun des caractéristiques particulières, mais qui tous les deux peuvent donner l'information nécessaire à la femme pour savoir si elle veut, oui ou non, garder son enfant. En règle générale, c'est effectivement dans le but d'éviter d'avoir un enfant anormal. Alors, les risques de ces deux tests, il existe des risques en faisant ces deux tests, car on peut effectivement provoquer une fausse couche, aussi bien avec la chorionocentèse qu'avec l'amniocentèse. Risque qui, bien sûr, prend plus d'importance quand on sait que le test est pratiqué à la 10e semaine en chorionocentèse, ça veut dire que c'est un avortement, entre guillemets, c'est une fausse couche au bout de 10 semaines seulement, alors qu'autrement, c'est une fausse couche au bout de la 10e semaine, 16e semaine, ce qui est déjà beaucoup plus avancé. Ces deux tests, on les met en général en balance avec donc le risque de malformation qui peut peser sur le fœtus en développement. Or, ces risques sont augmenter énormément à partir de 35 ans d'âge de la femme. Et on essaye en général de dire, bon ben maintenant, ça vaut la peine de faire le test parce qu'il y a plus de chances de malformation mise en balance avec les risques de mauvais aboutissement du test, c'est-à-dire risque de fausse couche. J'ai donc toujours avec moi Christine de la consultation des sages-femmes. Alors Christine, avec tous ces données mises sur la table, vous, en consultation, est-ce que vous conseillez aux femmes, quand vous savez qu'elles ont, à partir, disons, de la trentaine, je ne sais pas quels critères d'âge vous avez, mais est-ce que vous leur conseillez de faire ces tests?
Alors, il n'y a pas de critères d'âge en ce qui concerne l'information à donner. C'est très important que chaque femme ait la possibilité de choisir. C'est vrai qu'à Genève, c'est un canton relativement ouvert à ces demandes, étant donné que l'amniocentèse ou la chorionocentèse, à savoir un test de dépistage, est accepté indépendamment de l'âge de la femme. Ça, c'est important à savoir. Et je crois que c'est un test qui est également remboursé par les caisses maladies. Alors qu'il y a d'autres cantons où le remboursement n'est pas du tout assuré si une femme demande ce test avant 35 ans. Bien sûr, on va le proposer en tant que professionnel systématiquement à toutes les femmes à partir de cet âge-là. Bon, la raison, elle est liée au fait qu'il y a une augmentation, comme tu l'as dit, des risques d'avoir un enfant avec une anomalie à partir de cet âge-là. Les risques augmentent. Donc, c'est justifié de proposer ce test tout en sachant que le choix reste entièrement aux parents de le pratiquer ou pas, enfin de le demander ou pas.
Parce qu'il y a en fait beaucoup pour des raisons d'éthique qui feraient qu'éventuellement des femmes ne voudraient pas faire ce test. Parce que je crois que c'est ça qui est aussi la question latente à ces deux tests-là. Hein. Oui alors, ou non, avoir un enfant, accepter d'avoir un enfant anormal, oui ou non, avorter si on sait qu'on a un enfant anormal.
Effectivement, c'est jamais un réel choix quand on se retrouve dans cette situation-là, à savoir que parce qu'on a 35 ans, on prend un risque d'avoir un enfant pas tout à fait dans le projet qu'on voudrait. C'est évident que c'est pas vraiment un choix, c'est un peu une sanction. L'amniocentèse ou la chorionocentèse permet effectivement d'avoir une réponse. Ça veut pas dire qu'à partir de là, le choix est vraiment facile. Une femme peut tout à fait se sécuriser par cet examen-là et avoir pas du tout comme projet l'interruption de sa grossesse. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être souple, il faut garder en mémoire qu'une femme qui pratique ce test, elle a aussi le droit d'hésiter au moment où elle a un résultat qui est négatif et qui lui impose une interruption de grossesse.
Thank you.
Romu Ménage, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, notre dossier sur l'amniocentèse. N'hésitez pas à téléphoner pour demander des renseignements ou apporter votre témoignage au 023 50 40 51 41.
Tout de suite, nous allons entendre le premier témoignage d'une femme, Jacqueline, qui a pratiqué elle aussi l'amniocentèse alors qu'elle avait 37 ans et qu'elle attendait son premier enfant.
Jacqueline, tu avais 38 ans quand tu t'es trouvée enceinte de ton premier enfant, le petit Gaspard qui aujourd'hui a 2 ans. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais, tu te souviens de quelle a été ta réflexion lorsque tu t'es dit « j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai 37 ans ». Qu'est-ce que ça signifie, quel risque je prends? Est-ce que ça, d'emblée, c'était évident que tu allais faire le test de l'amniocentèse?
Bon, j'étais tout de suite consciente que j'étais âgée. Pour moi, j'étais à la limite. C'était vraiment le coup près. Soit je décidais de faire un enfant, soit je décidais que c'était fini, que je ne pouvais plus en faire. Et à ce moment-là, ça pouvait se poser le problème de l'adoption. Mais bon, l'envie d'avoir un enfant était assez fort pour que je décide d'en faire un, tout en sachant qu'il y aurait des risques de faire un enfant si âgé.
Donc, tu te retrouves enceinte le 24 décembre. C'est quand même une date magnifique. Hein. Et puis, très très rapidement, tu vas voir un spécialiste de l'amniocentèse, qui est le professeur Angèle, et vous avez un entretien pour qu'il explique entre autres ce qu'est l'amniocentèse. Pourquoi, toi, c'était évident qu'il fallait faire très rapidement comme ça cette démarche?
Bon, parce que moi, je considère que un des avantages de vivre au XXe siècle, c'est que l'on peut choisir de ne pas faire des enfants anormaux. C'est-à-dire, pour les personnes qui sont religieuses, ils considèrent qu'on ne peut pas avorter d'un enfant, même s'il est mongol ou d'autres déformités. Quant à moi, je considère justement le contraire, c'est qu'on a la chance actuellement de se dire qu'on peut mettre au monde des enfants sains. Et je ne m'imaginais pas du tout vivre le reste de ma vie avec un enfant anormal. Et c'était très clair pour moi tout de suite que s'il était anormal, j'avais l'intention d'avorter.
Donc en fait, finalement, la rencontre avec le professeur Angèle, elle était assez technique, parce que toi, tu savais très clairement ce que tu voulais.
Elle n'était pas que technique parce que c'est quelqu'un de très chaleureux et qui est très ouvert et qui pose des questions très intéressantes. Parce que même si l'on est déterminé comme ça au niveau de sa prise de conscience, au moment où il s'agit d'un enfant qu'on va avoir, bien sûr, il y a des doutes. Et surtout, de nouveau, quand on a 38 ans, on se dit « bon, ben, est-ce que j'arriverai à en avoir un autre si celui-là n'est pas bon ?» Et il y aura encore plus de risques l'année prochaine. C'est un petit peu ça, les doutes aussi. Hein. C'est-à-dire que si l'amniocentèse est négative et qu'il y a avortement, est-ce que j'aurai le courage de me relancer dans l'aventure pour faire un enfant, donc à 39, et avoir encore plus de risques? Mais donc c'était très intéressant de discuter avec le professeur Angèle qui a pris beaucoup de temps avec nous, parce que j'étais avec mon amie, pour vraiment définir d'abord... s'il considérait que c'était nécessaire dans mon cas. Je dis bien dans mon cas parce que c'est surtout l'âge de la mère qui rentre en considération, mais si le père est très âgé, ça peut aussi entrer en considération, mais c'est quand même la mère qui est la plus déterminante.
Est-ce que très formellement, ou lui ou n'importe qui d'autre, t'as vraiment demandé la question comme ça, dans le sens en disant « Madame, est-ce que vous êtes prête, si vous savez que votre enfant est anormal, à avorter ?» Ou de bien, vous devez vous engager à avorter si vous savez que votre enfant est anormal.
Oui, alors, c'est pas surgi formellement comme ça dans la discussion, puisque j'étais de toute façon tout à fait dans cet esprit-là, mais il l'a signalé. Par contre, ça a été formulé carrément comme tu l'as dit, juste avant le test, c'est-à-dire au moment de faire la ponction, la personne qui devait le faire m'a redit, êtes-vous consciente que si vous faites ce test, cela signifie que vous acceptez, en cas de malformation, un avortement?
pendant le temps qui... Bon, à un moment donné, alors tu as pesé avec, en connaissance de cause, les risques à la fois de malformation de cet enfant à naître, les risques que représente le test lui-même. Quand tu as tout su ça, pour toi, le choix était tout aussi évident.
Bon, d'abord, peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'on était deux et qu'on a décidé ensemble. Mais pour moi et pour Jean-Pierre, le choix était clair, je crois.
Très vite, il n'y a pas eu une rediscussion entre vous longue. Vous avez reposé le pour le contre.
Non, la question elle s'est posée entre la myosynthèse et la choriosynthèse. Mais pour moi, la choriosynthèse, d'abord, elle se faisait beaucoup plus rapidement, donnant moins d'informations sûres, c'est-à-dire qu'il y avait risque de devoir quand même faire une amniosynthèse par la suite, risque de perte de l'enfant plus élevé que par l'amniosynthèse, moins d'informations parce que par l'amniosynthèse, on n'a pas seulement le mongolisme qui est déterminé, mais des tas d'autres malformations, donc moins d'informations par la choriosynthèse. Et nous avons estimé que mieux valait attendre.
Attendre, c'est attendre longtemps, hein, l'occurrence, puisque l'amniosynthèse se fait que au moment de la 16e semaine. Ça veut dire que là, tu en étais à quoi? À ta quatrième semaine.
Voilà. Ouais.
Donc, il y a eu 12 semaines d'attente, 3 mois d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et dans vos têtes? Parce que, effectivement, je pense que Jean-Pierre, tu devais la sortir à ces moments-là. Pendant ce temps d'attente-là, est-ce que le test était comme rassurant, en disant, de toute façon, je vais vérifier, alors j'ai peut-être peur, mais tant pis.
Bon, pour moi, il y a eu une chose très importante, c'est que j'ai décidé, et on était d'accord là aussi, que je n'avais pas l'intention d'informer mon entourage, personne vraiment de l'entourage, grands-parents y compris, de mon état de femme enceinte, avant d'avoir les résultats de la myosynthèse. Parce que ce que je me disais qui allait être le plus horrible, finalement, c'était la compassion des gens, sachant que j'étais enceinte et qui auraient su que je devais avorter si tardivement, etc. Je voulais m'éviter ce genre de tracas. Et par conséquent, je devais être normale pendant cette période. Ce qui n'a pas été du tout difficile pour moi, parce que j'ai eu aucune des séquelles qu'ont certaines femmes, genre vomissement, enfin mal de cœur, etc. J'ai joué dans un spectacle, j'étais vraiment en pleine forme. Et je crois que jusqu'à la 16e semaine, l'enfant était là, mais il n'avait pas une présence omnipotente. Et je le sentais... Bon, ça semble normal. Les 3 premiers mois, on ne sent pas l'enfant bouger. On grossit un petit peu. Moi, j'ai tendance à grossir de toute façon, surtout en hiver, ce qui fait que ça allait assez bien dans le sens de ma nature. Je mettais des pulls amples. Et puis, puis voilà, je veux dire, en fait, jusqu'à la 16e semaine, le fait de cette amniosynthèse, elle était présente juste par le silence. Je me sentais assez proche de cet enfant qui naissait en moi, mais quand même sans qu'il intervienne dans mes activités.
Et donc sans que tu n'aies une angoisse forte, par exemple, sur une éventuelle malformation
Non, j'ai pas eu d'angoisse. On se demandait si c'était un garçon ou une fille. Bon, par exemple, Jean-Pierre, il savait que c'était un garçon, je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu ces angoisses qu'on a, je crois, naturellement, quand on entend un enfant... J'avais l'angoisse de le perdre les 3 premiers mois, par exemple, parce qu'on sait que c'est une période où on perd de toute façon facilement l'enfant. J'avais ce genre d'angoisse-là.
Mais pas liée à la malformation.
Non, pas liée à la malformation.
Est-ce que les choses ont été très différentes entre le moment où tu as fait le test, c'est-à-dire la 16e semaine, et la 20e, c'est-à-dire un mois plus tard, quand tu étais censé recevoir les résultats du test, puisqu'il faut un mois pour faire des cultures, etc. On parlera techniquement de la chose, mais pour recevoir les résultats de la myosynthèse.
Alors, c'était radicalement différent. Parce que grâce au test, d'abord, j'ai vu... à l'ultrason, le bébé entier qui bougeait. Tout d'un coup, sa présence s'est imprégnée en moi très fortement. D'autre part, il commençait à bouger. Enfin, c'est-à-dire qu'il bougeait déjà, mais je commençais à sentir ses mouvements. Alors ça, c'est deux choses qui me mettaient en rapport affectif très fort avec mon enfant. D'autre part, il y a eu, au moment de la myosynthèse, on fait une ponction donc, dans le liquide amniotique par le ventre. Et il faut, pendant 2 jours, rester immobile. Parce que c'est ces 2 jours-là qui sont déterminants. Le risque étant que la poche...
se referme pas.
Non, pas se referme pas, mais éclate. Et par conséquent, l'angoisse, elle a été pendant ces 2 jours-là. Elle a commencé vraiment, est-ce que je vais le perdre? Et non pas, est-ce qu'il est mal formé, etc., mais est-ce que je vais le perdre? Et puis ensuite, l'ayant vu, bon, il avait l'air bien comme ça. Enfin, je veux dire...
si on peut dire, si on peut dire 10 centimètres.
Voilà, exactement. Mais je crois que ça aurait été assez horrible d'avoir une réponse négative, enfin, c'est-à-dire qu'il n'était pas normal. Et c'était aussi très... ça commençait... parce qu'il était très présent, très difficile de ne pas le raconter à nos proches. Et c'est d'ailleurs... je dois dire que j'avais très confiance, parce que finalement, je l'ai dit à ma mère, une semaine avant le résultat, je ne pouvais plus, quoi. bon, voilà. Et alors, le résultat, c'est incroyable, parce que c'est un simple bout de papier où c'est marqué... normal. Bon, on nous avait posé la question de savoir si on voulait savoir le sexe. Moi, on voulait le savoir... Alors, c'est marqué normal, carotype masculin. Puis voilà, c'est tout quoi.
Donc, l'enfant est réduit à un bout de papier avec des croix dans des petites cases.
Mais en même temps, je crois que ça a été la plus grande joie. Enfin, c'était une joie extraordinaire quoi, de recevoir ce bout de papier.
C'était déjà une première naissance quelque part?
Oui, en quelque sorte, oui, parce que entre le fait de l'avoir vu et cette réponse, ça lui donnait en quelque sorte une personnalité. Enfin, qu'il avait déjà dans le contact intérieur, c'est très complexe d'expliquer, mais bon, ça, pour moi, de savoir qu'il était masculin en plus, c'est quelque chose de supplémentaire.
Parce que pourquoi avais-tu voulu savoir le sexe? Parce qu'en fait, on demande, je crois, hein, voulez-vous savoir ou ne voulez-vous pas savoir le sexe de votre enfant?
Oui, on peut désirer ne pas le savoir, et j'ai une amie qui, elle, au contraire, trouve merveilleux de se retrouver à la naissance, surprise. Moi, je crois que je suis d'une curiosité trop grande et j'avais vraiment très envie de le savoir. Et d'autre part, ça m'a semblé être un moyen d'être encore plus en contact avec ce bébé dans mon ventre.
Vous êtes toujours sur Remue Ménage, Radio Zone 93,8. Nous parlons des tests prénataux, amniocentèse et choriocentèse que vous pouvez faire pour déterminer des malformations du fœtus. Vous pouvez toujours nous appeler au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse si vous avez des questions à nous poser ou des témoignages à nous proposer.
Evelyne, toi tu avais déjà eu un premier enfant, Guillaume, quand tu avais 28 ans, c'est ça? Et à ce moment-là, j'imagine, tu ne t'étais pas vraiment posé la question de faire une amniocentèse, ou oui?
D'abord, j'avais 26 ans.
26, oui.
Et puis, effectivement, je m'étais déjà posé la question parce que le papa de Guillaume travaille en radiologie et que, étant exposé à des rayons, je m'étais dit, il y a peut-être un risque. Et là, j'en ai parlé avec mon médecin qui m'a dit que non, il y avait aucun risque. C'était pas une raison suffisante pour faire une amniocentèse. Et puis j'avais très vite abandonné parce que j'étais finalement assez jeune.
Et puis cette fois-ci, donc là maintenant, tu es enceinte de combien? 6 mois. Donc tu as quel âge maintenant?
32.
32 ans. Et pourquoi tout à coup cette fois-ci tu t'es dit je veux faire une amniocentèse? Quelle différence entre la première et cette fois?
La différence c'est que j'ai 6 ans de plus. Et qu'entre-temps, le problème de la myosynthèse s'est beaucoup développé. Et je me suis dit, finalement, j'ai 32 ans, c'est quand même pas si jeune que ça. Et puis, j'ai envie de profiter de la technique. Je me suis dit, c'est suffisamment au point pour que je tente le coup. Parce que pour moi, c'était clair et net que j'avais pas envie d'élever un enfant mongol. J'ai travaillé avec des enfants mongols et je savais dès le départ que si je savais que j'en attendais un, j'avortais. Donc c'était une des raisons pour laquelle je me suis décidée à faire la myosynthèse. Et pour moi, c'était plus facile en cas de problème d'arrêter une grossesse à 4 mois que d'avoir la déception à 9 mois en fin de grossesse ou à l'accouchement.
Est-ce que aussi toute cette décision elle a été prise par réflexion éthique, justement, dans le sens je sais que je ne veux pas élever un enfant anormal, ou bien est-ce que c'était lié à une profonde angoisse quelque part en toi?
Alors non, j'étais pas du tout angoissée, je l'étais même moins que pour la première grossesse. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment lié au fait que la myosynthèse existe, que pour moi c'était un acte, j'en ai entendu parler comme un acte relativement simple et facile, j'en avais pas peur, et voilà, je me suis décidée, c'était pas lié à l'angoisse.
Donc tu n'en avais pas peur, ni dans la réalisation technique du test, parce qu'on dit quand même qu'effectivement, il y a, tu me disais tout à l'heure, une femme sur 100 dont le test ne se passe pas bien, donc provoque un avortement. Et puis y compris dans la conclusion, c'est-à-dire si jamais tu savais que tu étais enceinte d'un enfant anormal, il faut affronter le fait de devoir vivre un accouchement à 4 mois.
Alors apparemment je me sentais prête, je ne peux pas te dire comment j'aurais réagi si vraiment ça avait été le cas, parce que ça n'a pas été, mais je crois que c'était aussi lié au fait que ce n'était pas la grossesse de la dernière chance. Je me suis dit, bon, ben, s'il y a un pépin en cours de route, s'il y a un avortement, un accouchement qui doit se faire, c'est pas définitivement perdu. Je recommence.
Est-ce que toute cette réflexion, tu te l'es fait pour toi toute seule, ou est-ce que soit tu as discuté avec son médecin, soit d'abord, premièrement, avec Marc, le père de ton enfant, ou avec d'autres gens?
Alors, j'en ai d'abord parlé avec Marc. Et puis, on s'est mis d'accord pour se dire qu'on allait en parler avec le médecin, pour savoir, lui, quelle était son idée là-dessus, ce qu'il conseillait, s'il avait des conseils à donner et tout. Et effectivement, j'en ai parlé avec mon médecin, qui ne prend pas du tout position, qui me dit, bon, ben, si vous voulez la faire, vous la faites, sinon, moi, je ne la fais pas. C'est pas un médecin qui l'a fait, donc je devais aller chez un de ses confrères, mais il n'y avait pas d'influence, ni dans un sens, ni dans l'autre. Pour lui, sa réponse était basée sur les statistiques et il fallait que je me débrouille avec ça. Quant au papa, lui, il suivait un peu mes mouvements dans le sens où si je décidais de la faire, il respectait la décision, il aidait dans ce sens-là. Et si je disais que non, ça valait pas la peine, c'était pareil, il respectait cette décision. Je ne crois pas que c'était une personne angoissée sur le fait d'avoir un enfant anormal. Par contre, je sais qu'il était plus angoissé par rapport à l'acte. Mais ça, c'est peut-être dû au fait qu'il travaille dans le milieu médical, je sais pas.
Mais toi, tu t'es sentie dans ta tête seule, effectivement seule responsable. Tu savais qu'à un moment donné, tout dépendait de toi. C'est toi qui devais décider, oui ou non, je fais ce test ou pas.
Ouais. Et là, ça a été décidé en 10 minutes. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas depuis le début. Je me disais, bon, je vais la faire. Ensuite, je disais, non, ça ne vaut pas la peine pour une question de prix. Puisque je n'avais pas 35 ans, on ne voulait pas me la rembourser. Après, je me suis dit, non, c'est trop bête si c'est une question d'argent. J'en ai parlé avec des copines qui l'ont faite. J'en ai parlé avec une autre médecin. Et finalement, un beau jour, j'ai eu le déclic. Et en 5 minutes, j'ai senti que c'était bon, il fallait que je la fasse.
Et ça s'est fait aussi vite, y compris dans l'acte médical. Dans le sens, tu as téléphoné à ton médecin, puis là, tu as fait le test très rapidement.
Oui, bon, ça correspondait. Je savais que c'était limité, hein, que j'étais à la 16e semaine, qu'il fallait que je me dépêche de prendre la décision, qu'au-delà d'une semaine supplémentaire, c'était trop tard. Mais effectivement, j'ai téléphoné le lendemain, et le surlendemain, j'avais un rendez-vous, et c'était bon.
Est-ce qu'avec ton entourage, tes amis ou le père de ton enfant, vous avez beaucoup discuté de ce que ça veut dire d'avoir un enfant normal? Anormal, pardon. Dans le sens que c'était très clair pour toi, ça? Ou bien est-ce que ça fait partie d'une grande discussion? Que ça veut dire d'élever un enfant anormal? Que ça veut dire si on se met à supprimer tous les enfants qui ne nous conviennent pas?
Non, la discussion, elle n'a pas été jusque-là. Pour moi, du moment que j'ai travaillé avec des enfants mongols, je savais que j'en voulais pas. Et puis, je me suis dit, bon, j'en ai déjà un. Je sais aussi que si tu as un deuxième enfant qui est anormal par rapport au premier, ça peut poser des problèmes dans le sens où il te demande plus. Alors, dans ce sens-là, je me suis dit aussi, non, je ne prends pas le risque. Du moment que je peux essayer de ne pas le prendre, je ne le prends pas. Mais par rapport à la discussion, et puis de se dire, de penser assez loin dans le sens, mais si on les supprimait tous, qu'est-ce qu'on deviendrait? Non, pas du tout. Je crois que c'était vraiment très, très individuel. Mon petit truc à moi, non, j'en veux pas, et puis...
Tu n'as pas l'impression d'entrer dans un système de manipulation génétique? Je dis ça parce que il y a beau, effectivement, il se trouve qu'il y a des femmes, des gens qui sont très suspects à l'égard de ce genre de test parce que craignant que cela mène à des abus du genre si c'est une fille, je veux un garçon, alors on supprime. On peut effectivement considérer comme anormal beaucoup de choses à un certain mm-hmm. moment donné. Hein. Ce type de réflexion-là ne t'a pas apparu dans ta tête?
Absolument pas. C'était beaucoup plus instinctif, beaucoup plus intérieur. C'est vraiment, vraiment au premier degré. Ça peut être peut-être une discussion après coup, une fois que tout est passé, tu passes à autre chose. Mais là, vraiment, c'est quelque chose que tu as en toi. Je te dis, c'est très individualiste, c'est vrai.
Est-ce que tu penses que ce serait une, entre guillemets, liberté supplémentaire donnée aux femmes que d'accorder systématiquement, quand elles le désirent, le test de l'amniosynthèse, dans le sens que ça devienne un acte comme n'importe quel acte de contrôle pendant la grossesse et que, entre autres, le problème de l'argent n'intervienne plus?
Ah oui, oui. Oui, mais bon, moi j'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça, à moins de vraiment tomber sur le médecin qui te décourage ou qui refuse. Mais du moment qu'il y a d'autres médecins qui disent qu'ils la font automatiquement sur ta demande, je crois que la femme est libre à n'importe quel âge.
Oui, sauf l'obstacle de l'argent, comme tu disais.
Bon, l'obstacle de l'argent, mais j'ai encore pas résolu complètement le problème parce que je sais pas à quel point ils vont me rembourser. Alors ça, je peux pas en parler pour l'instant.
Vous êtes toujours sur Remue-Ménage, Radio Zone 93,8, et nous parlons amniosynthèse dans quelques instants, la suite du témoignage d'Evelyne.